protéger la propriété intellectuelle de nos industriels.
Le droit d'auteur.
Technology intellectual property.
R2PI. R2PI, le podcast de la propriété intellectuelle.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur R2PI, votre podcast de propriété intellectuelle. Ici, on parle de pays, on en parle entre amis, mais surtout, on vous en parle. Bonne écoute!
Chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode spécial sous un nouveau format puisqu'il s'agit d'un micro-trottoir. Chloé Piédois et Elodie Miglior, doctorantes au CEPI, ont parcouru les rues d'Angoulême pour interroger les créateurs sur les questions de propriété intellectuelle ou encore sur la condition d'artiste en France et en Europe. Nous vous laissons avec leurs réflexions. Bonne écoute!
Pourriez-vous dans un premier temps vous présenter et nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites?
Alors, je m'appelle donc Nicolas Gazot, je suis auteur-illustrateur. J'ai étudié à partir de 2000 à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême. J'en suis sorti diplômé avec un DENSEP et je suis resté à Angoulême et suis en activité depuis 2006.
Oui, bonjour, je suis Mircea Rapu. Je suis un des repreneurs du fameux Pif le chien. Créé par Cabrero Arnal en 1948 dans les pages de l'Humanité, qui ensuite est arrivé dans le journal Vaillant, qui a fait de Pif son personnage phare. Et en 1969, il est devenu encore le plus célèbre Pif gadget, qui existe encore de nos jours.
Alors moi je suis Santonac Alexis, je suis principalement dessinateur, je suis aussi coloriste et un petit peu scénariste. Et la dernière grosse sortie que j'ai faite c'est Goldorak avec mes copains Denis Bajram, Brice Cossu, Johan Guillot et Xavier Dorizon. Et là je viens de sortir un Orc et Gobelin et un album chez Dupuis aussi qui s'appelle Wakan.
Je m'appelle Joséphine Monteniente, je suis la dessinatrice de la BD Moi je veux être une sorcière, Ménopause, le dernier tabou.
Bien bonjour, je m'appelle David Camus, je suis auteur, traducteur, j'ai été éditeur et agent, mais aujourd'hui je me consacre essentiellement à l'écriture et la traduction. Traduction, bah, je suis un peu connu pour mon travail sur Lovecraft, et puis écriture, je publie là un roman jeunesse chez Robert Laffont.
Bonjour, donc je suis Saki, autrice de Webtoon en France, et je fais partie de l'association Le Webtoon Café, une association qui a pour but de faire de la médiation du Webtoon en France.
Alors, je suis Oliver Hudson et je suis un dessinateur de super-héros français. Voilà.
Alors, bonjour, je suis Valérie Mangin, donc scénariste de bande dessinée. Et j'écris surtout des bandes dessinées de science-fiction et des bandes dessinées historiques comme Alix Senator, qui est la suite du Alix classique de Jacques Martin.
Bonjour, je m'appelle Dawid, je suis dessinateur de bande dessinée. Voilà, et je travaille actuellement sur plusieurs projets, projets adultes, projets jeunesse.
On va commencer par notre première question. Est-ce difficile d'être auteur en France et en Europe de nos jours?
Alors, je vais parler essentiellement de la France parce que je n'ai pas eu de commandes venant d'autres pays, enfin pour l'instant. Je pense avoir les mêmes problèmes que mes collègues, auteurs et autrices. Il y a la précarité, évidemment, le fait d'être des mercenaires parce que nous travaillons à la commande, donc il peut y avoir des mois creux, d'autres mois où on gagne plutôt bien notre vie, mais c'est, on va dire, le paiement d'une commande qui s'est étalée sur plusieurs mois. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai pu devenir propriétaire il y a 4 ans, mais sans l'aide financière de ma mère, j'aurais dû tirer une croix dessus, je pense, définitivement. L'accès à la propriété.
Alors, il y a des auteurs qui sont édités et des auteurs non édités. Et dans les deux cas, c'est assez difficile d'en vivre, en tout cas. C'est le principal problème et c'est le principal combat à l'heure actuelle.
C'est facile d'être auteur parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs. Après, c'est difficile d'en vivre. Parce que comme il y a beaucoup de production et donc beaucoup de choses, le marché absorbe difficilement et les auteurs ont du mal à vivre au milieu de la surproduction. Voilà.
Ah, être auteur, c'est un point de vue, quoi. Ça peut être très facile si on est doué pour. Bon, on ne va pas résumer qu'au doué, qu'au don, qu'à tout ça, c'est un peu, on l'entend trop souvent. C'est un métier comme tout autre, qu'on apprend au fur et à mesure de l'exercer.
Oui. C'est carrément difficile parce que l'offre du marché, elle est plus qu'énorme. Malgré ce qu'on entend qui dit que le secteur du livre et en particulier de la bande dessinée marche très bien parce qu'il y a un gros chiffre d'affaires et tout, c'est vrai, sauf que le gâteau, il a 50 000 parts de plus qu'il y a 20 ans.
C'est plutôt difficile d'un point de vue matériel, dans le sens où c'est compliqué de se faire rémunérer de manière juste. Et en fait, c'est surtout ça, je pense, le gros frein pour énormément d'artistes-auteurs en France, quoi.
Je m'interroge toujours sur la notion de difficulté ou de facilité. Je ne sais pas ce qui est facile. Je ne connais pas trop de personnes qui puissent parler de leur travail en disant qu'il est facile. En ce qui me concerne, non, je dirais que c'est difficile, mais c'est ce qui m'intéresse. Si c'était facile, peut-être que j'irais faire autre chose. Mais bon, ça ne regarde que moi. Je n'oblige personne, évidemment, à la difficulté.
Oui, je pense que c'est très difficile parce que vous savez, être auteur, c'est souvent auteur de bande dessinée en tout cas, c'est souvent un travail à temps plein. On travaille beaucoup plus de 35 heures par semaine pour la plupart d'entre nous et on a des revenus qui sont largement en dessous du SMIC, enfin qui seraient en dessous du SMIC si on était salarié, parce qu'on n'est même pas salarié en fait. Donc oui, c'est très difficile.
J'imagine que c'est pas forcément simple, c'est pas la profession la plus accessible. C'est toujours un métier qui reste assez précaire, on va dire, hein, avec un statut qui n'est toujours pas défini clairement. Donc voilà, il y a certainement je sais qu'il y a des démarches en ce moment en cours au niveau de l'Europe pour améliorer ça.
Et au niveau du droit, est-ce que vous pensez que le droit est un outil qui vous protège, qui vous encourage à créer, ou au contraire que c'est une contrainte ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Alors la question du droit, elle est assez particulière parce que le droit est complexe. Je dois avouer que petit à petit, je le découvre en fonction des commandes que j'accepte. Nous avons la chance à Angoulême d'avoir un lieu qui s'appelle la Maison des auteurs, un lieu de résidence. Et un juriste y exerce, Sébastien Cornuau. Et régulièrement, je vais vers lui quand j'ai des litiges avec des clients. Un exemple, il y a un an, j'ai eu un litige avec France 3 suite à des dessins faits durant un procès. Et France 3 ne tenait pas compte du droit à l'image, c'est-à-dire qu'il voulait me payer chaque diffusion de dessins une seule fois, alors que des dessins ont été utilisés plusieurs fois. Je savais qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas lequel. Et c'est Sébastien Cornuau qui m'a trouvé les textes de loi qui définissait les montants en fonction du nombre de diffusions. Sans lui, j'aurais été démuni face à France 3 et je n'aurais pas pu avoir gain de cause.
Le droit devrait nous protéger, ça c'est clair. Le droit, c'est une chose qui est normale dans un monde qui devient un peu de plus en plus sauvage, où on est volé. Ça m'est arrivé d'être volé souvent parce que je mets mes dessins sur Internet, sur mon blog, tous les jours et automatiquement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur un peu partout, quoi, sur Instagram, etc., Twitter. Et il se trouve que des personnes mal intentionnées les prennent et les présentent comme les leurs à des industriels de l'impression sur T-shirt. Bon, apparemment ça marche. J'ai pas envie de leur courir après pour les attaquer. Tant pis. Bah, ceux qui connaissent mon travail vont savoir que ce n'est pas eux, que c'est moi. Donc le droit, oui, on a besoin de lui pour nous protéger. C'est aussi une aide pour défendre notre droit à nous. Donc oui, c'est bien.
Le droit ne nous protège pas, nous les auteurs. Il protège éventuellement notre travail, mais il le protège une fois qu'il est édité par un éditeur. Donc au final, peut-être même qu'il protège plus les éditeurs que nous.
Le droit d'auteur, non, moi je pense que c'est plutôt nécessaire en fait, parce que je le vois dans d'autres pans du métier, dans tout ce qui est plus illustration, ou par exemple communication, ça protège quand même vachement, ça évite que les gens fassent n'importe quoi avec nos dessins. Donc non, moi je pense que c'est très nécessaire.
Bah, historiquement en France, on est plutôt bien protégé, mieux que dans certains pays où historiquement, par exemple les États-Unis, où on a un droit de propriété. Mais je sais que les choses changent un petit peu, s'américanisent justement au niveau de l'Europe, et bah, ça c'est forcément dangereux.
Pas suffisamment. Je pense qu'il y a encore des choses à voir, que ce soit dès l'origine de la création, c'est-à-dire le contrat qui me lie à l'éditeur, et puis aussi vers la fin de la création, c'est-à-dire les droits sociaux, la retraite, la sécurité sociale, des choses comme ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations qui sont possibles.
je crois que le droit, malheureusement, on ne le connaît pas assez. Enfin, les auteurs ne connaissent pas assez et n'ont pas assez recours aux protections auxquelles ils pourraient avoir droit parce qu'ils ne les connaissent pas et que donc et qu'il y a malheureusement aussi beaucoup de trous encore dans le droit et qu'on pourrait avoir un droit largement plus adapté aux auteurs, oui.
Alors une contrainte, non, pas vraiment. On nous protège, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Je pense qu'il y aurait vraiment des progrès à faire de ce point de vue, oui. Parce que vraiment, il y a un statut qui est demandé par beaucoup d'auteurs et d'autrices. Et ça reste pour le moment un sujet qui reste secondaire, j'ai l'impression, toujours sur le plan politique. Et c'est vrai qu'au niveau... si on pouvait avoir une réglementation au niveau européen, ce serait vraiment parfait. Puis ça montrerait l'exemple, sans doute, à beaucoup d'autres régions du monde.
Le droit est en effet quelque chose qui peut nous protéger en France. La question est aussi de voir ce qu'on peut faire pour les auteurs qui sont édités à l'étranger.
Que pensez-vous de l'émergence de l'intelligence artificielle vis-à-vis de votre pratique ?
Alors, ce qui concerne l'émergence de l'intelligence artificielle, deux choses à ce sujet. La première, c'est que... trois choses. Au début, j'ai eu quelques réserves, notamment en termes de propriété littéraire et artistique. C'est-à-dire que si j'ai bien compris le fonctionnement de ces intelligences artificielles, elles vont puiser dans un fonds d'œuvres dont certaines ne sont pas encore domaine public pour pouvoir faire des propositions d'œuvres. Or, un auteur, si vous voulez, quand il signe un contrat, est censé apporter à l'éditeur ce qu'on appelle une garantie de bonne jouissance, c'est-à-dire le fait que son œuvre soit absolument originale. Là, je ne vois pas comment, avec l'intelligence artificielle, on puisse être absolument certain que l'œuvre qu'on propose soit originale. Donc moi, j'ai toujours inviter les auteurs à se tenir à l'écart de ça, enfin si ce n'est pour jouer ou regarder comment ça marche, même si je trouve que ça marche très bien, notamment pour la rédaction d'emails essentiellement. Pour la traduction, non, là ça ne marche pas clairement. À voir, je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer clairement sur la question, mais à étudier.
Alors c'est une question que je commence à me poser depuis peu. Je vois sur les réseaux sociaux et les forums d'auteurs que la question devient de plus en plus importante. J'ai appris récemment que des couvertures de romans étaient générées par IA. Je commence à voir... Alors, au début, j'ai appris via Instagram que des auteurs de comics que je suis voyaient leur travail plagié par l'IA, c'est-à-dire qu'on avait fourni à des IA l'intégrale de leur travail et que des copies très convaincantes... pas des copies, mais des extrapolations très convaincantes circulaient. Et d'ailleurs, je m'étais fait avoir, je n'avais pas vu la différence. Après, ce sont des logiciels d'extrapolation, donc tout dépend de la façon dont on les nourrit. Mais en tout cas, ça trompe son monde, donc ça pose beaucoup de questions.
Alors, j'ai vite fait écouter ce que disait mon collègue. Moi, je pense qu'il y a des bonnes choses. Alors, forcément, c'est néfaste pour plein de corps de métier. Par exemple, les gens qui faisaient des illustrations pour les magazines de presse, forcément, l'AI est une concurrence financière entre payer quelqu'un qui va faire un visuel et une AI qui va pondre le visuel qui va être très, très vite et il va être généré. Et forcément, il ne va pas coûter grand-chose. Forcément, toutes ces industries-là, déjà les magazines, c'est fini pour les graphistes, c'est fini pour les gens qui sont illustrateurs. Il y a plein de corps de métier comme ça qui vont changer. Après, le problème, c'est qu'ils vont changer très vite, très radicalement. Donc, il y a plein de gens qui vont devoir s'adapter très vite. Après, pour plein de choses, je sais que je suis pas mal de profils Instagram où ils nourrissent beaucoup d'images AI. Qui peuvent être souvent des sources d'inspiration, de voir des choses qui n'ont pas été faites par l'humain, qui vont des fois plus loin, et de façon justement qui le génère facilement. Et donc on va voir, comme on voit toutes les images de cinéma à la Wim Wenders qui sont arrivées sur Instagram, peut-être que plein de gens ne savaient pas qui était Wim Wenders ou Wes Anderson. Et aujourd'hui, il y a toute cette culture graphique qui ressort, la science-fiction rétro, grâce aux AI. Voilà. Mais moi, je sais que je m'en sers beaucoup comme base de données, comme quand on se balade dans la rue ou on lit des livres, voilà, je me sers vraiment d'inspiration pour nourrir ce que je fais.
Ça me fait un peu moins peur qu'un dessinateur qui est confronté à Midjourney, mais bon, ChatGPT, c'est quand même assez effrayant pour un scénariste, parce qu'on se dit que... Bon, on espère toujours que les gens font la différence entre un travail humain et ce que peut produire une IA qui ne sera jamais créative, justement. Mais malheureusement, on se dit que bon, des personnes pourraient se dire que faire un texte en quelques secondes par une IA qui ne demandera pas à être payée, qui ne sera jamais malade, qui ne se plaindra jamais, c'est beaucoup plus facile que de faire travailler un auteur. Et donc oui, c'est assez effrayant, on a toujours peur de se faire remplacer.
Que du bien. Pour moi, oui. Au contraire de nombreux autres auteurs, de mes confrères auteurs, je pense que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Il faut savoir déjà s'en servir, il faut apprendre à s'en servir, il faut s'en servir. On a dit la même chose de l'informatique quand elle est arrivée au début des années 80, l'informatique personnelle. Ensuite, quand elle a commencé à rentrer dans plein de métiers qu'elle a chamboulé dans le monde, je me rappelle, dans le monde de la publicité, j'y étais à l'époque. J'ai appris à faire moi-même des maquettes sur Macintosh. Et pour moi, c'était, en même temps, c'était l'accomplissement d'un vieux rêve de créer un journal, de posséder un journal, de fabriquer un journal. Et c'est un rêve qui se réalisait avec l'arrivée de l'informatique. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est la possibilité multipliée d'aide à la création. Attention, l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un... qu'un simple sous-fifre, qu'on lui dit bah, « tu vas me faire ça, tu vas copier de là, tu vas copier telle chose », non, parce que le résultat, il va être désastreux. Quand on regarde bien ce que l'intelligence artificielle fait, c'est le meilleur du monde comme le pire. C'est exactement comme dans la fable d'Ésope, où son maître lui demandait de lui fabriquer pour le lendemain, pour ses invités, le meilleur plat du monde. Et le surlendemain, c'était la même chose qu'il avait fabriqué, un plat de langue, parce que c'est la langue qui est la meilleure des choses, qui dit des mots d'amour, qui raconte des poésies, et puis c'est la pire des choses, la plus calamiteuse, qui transmet des vilains propos. Donc voilà, ça dépend du point de vue.
C'est assez récent, donc on ne voit pas encore l'impact, par exemple, sur le nombre de contrats qui sont signés. Par contre, les auteurs l'utilisent aussi comme un outil pour créer, un outil pour s'aider à s'inspirer. Par contre, il y a aussi des problèmes lorsque les œuvres faites par des IA sont vendues à la place d'œuvres faites par des auteurs à proprement parler.
Alors ça, c'est un vrai problème parce que, comme pour l'instant, il n'y a aucune sécurité sur les bases de données sur lesquelles s'appuie l'intelligence artificielle. Alors moi, je parle évidemment en termes d'image, hein, parce que sur tout ce qui est... Enfin, ceci dit, pour le texte, c'est la même chose, mais côté musique et tout, je maîtrise moins, mais c'est un vrai souci parce qu'au final, ça peut très bien se porter, s'appuyer sur le travail d'auteurs qui n'en ont pas donné la permission, en fait. Donc c'est un joyeux bordel. Et en plus... Alors, on est d'accord qu'on parle en termes de droit, hein, voilà. Parce que là, j'allais dire en plus, en termes créatifs, il y a plein de choses à dire, mais en termes de droit, c'est un vrai problème, parce que on ne peut pas exploiter l'image d'autrui sans sa permission, si c'est pour des fins commerciales, quoi.
Ah. Oui, j'ai rencontré des lycéens ce matin, justement, qui m'ont posé la question, parce que... Et alors, l'émergence de l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, j'en ai pas particulièrement peur. Je trouve ça un petit peu... Le problème, c'est surtout le droit de nos images qui n'est pas respecté, nos images qui sont volées pour créer d'autres images artificiellement qui, personnellement, je trouve pas forcément qui manquent d'âme. Enfin, voilà, ça reste des images produites par une machine. Donc, pareil, il faudrait une réglementation pour tout un tas de choses. Enfin, de toute façon, dans le monde actuellement, il faudrait des réglementations pour tout un tas de choses qui ont été... Soit elles ont été supprimées, soit il faut en créer. Et là, clairement, il faut en créer par rapport pour protéger les œuvres des auteurs. Après, avec les lycéens, on a parlé de en tant qu'outil créatif. Moi, personnellement, je trouve pas ça très intéressant dans l'acte de création d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce que ça réduit notre travail à des tâches pas intéressantes. Parce que si c'est pour prompter sur un ordinateur pour avoir un résultat, pour moi la démarche... une fois de plus, c'est un outil qui sert juste à aller plus vite pour gagner plus d'argent, c'est pas terrible.
Et avez-vous des attentes particulières? Qu'est-ce qui permettrait d'améliorer vos conditions professionnelles?
Alors... Le problème récurrent, on va dire, c'est l'irrégularité de nos revenus qui provoque une précarité. Donc peut-être un système proche de l'assurance chômage. Alors moi, j'ai été contacté récemment par l'IRSEC pour la première fois et j'ai découvert qu'on me demandait depuis 4 ans une cotisation dont je n'avais jamais entendu parler. Et j'ai reçu la visite d'un huissier il y a 2 semaines, ce qui était fort désagréable. Parce qu'on ne m'a pas donné l'occasion, en fait, de régler cette, euh, cette somme due. Apparemment, il y a eu un problème d'adresse. Mais je rencontre un ou une représentante demain de l'IRSEC. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse en discuter et s'entendre. Sinon, avec l'URSSAF, je dois dire que ces quatre dernières années, l'URSSAF m'a très agréablement surpris parce que j'ai eu du mal à payer en temps et en heure. Et on a pu mettre en place des échéanciers de paiement. Il n'y a pas eu de majoration. Donc j'ai envie de dire merci l'URSSAF pour cette compréhension durant et après. Enfin, je ne sais même pas si on est vraiment sorti de la crise sanitaire. Mais ils m'ont aidé pendant ces quatre dernières années.
Alors, il y a beaucoup de voies possibles. Et là, on sort tout juste d'une conférence dans un amphithéâtre sur en fait, le statut des auteurs, artistes-auteurs. Donc, à mon sens, il faut se renseigner, il faut savoir dans quoi on s'engage et il faut se syndiquer.
Alors non, je ne suis pas suffisamment spécialisé dans le statut. Non, honnêtement, c'est compliqué parce que on parle souvent du statut des intermittents dans le spectacle et tout. Et donc, je ne sais pas comment, nous, il pourrait être adapté par rapport aux auteurs, en tout cas, les écrivains, les dessinateurs, parce qu'on n'a pas de... On ne travaille pas sur des missions ponctuelles bien définies avec un nombre d'heures. C'est tout à fait aléatoire. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas assez spécialisé dans le domaine. Je compte sur les spécialistes que j'ai autour de moi pour trouver une solution, mais je comprends que c'est pas simple, mais je comprends aussi qu'il faudrait, pour défendre la création et les auteurs, faire quelque chose, parce que on est très content en France en particulier d'avoir beaucoup d'auteurs, on se vante de la culture française, mais il faut aussi penser à ceux qui la produisent et les protéger.
La condition, alors le simple fait d'avoir un vrai statut juridique, je pense que ça serait quand même pas mal, parce que à l'heure qu'il est, ça n'existe pas. Puisque même pour payer ses impôts, on est obligé de rentrer dans une case qui en vrai n'est pas vraiment la nôtre. On est rapproché, dès que ça les arrange en fait, on est rapproché aux salariés, sauf que c'est pas du tout nos conditions de travail. Donc déjà, si on avait un statut à ce niveau-là, ça serait vraiment pas mal. Après pour améliorer, c'est super complexe parce que ça reste un travail libéral, puisque c'est du cas par cas. Donc on est tous différents, on réagit tous différemment. Donc c'est super dur à légiférer, mais si au moins on avait une base sur laquelle travailler, ça serait intéressant. Et pour l'instant, la base, on essaie de la construire, mais c'est pas gagné, quoi.
Eh ben, je pense que c'est de trouver peut-être un juste milieu pour le statut artiste-auteur, quelque chose qui fasse plus sens, comme par exemple l'intermittence pour les personnes qui travaillent dans les arts vivants, enfin l'art du spectacle, voilà. Bref, l'intermittence pour les artistes auteurs, je milite pour, je pense que ce serait super important et voilà, ouais, juste qu'on ne soit plus dans la précarité constamment.
Bah déjà les contrats, la reconnaissance d'un véritable statut comme un statut de travailleur à l'égal des autres, c'est-à-dire qu'en effet, il arrive que parfois des contrats nous considèrent malgré tout comme des travailleurs puisqu'on nous propose des prestations de services quand il s'agit d'œuvres de commande, alors que nous sommes avant tout des auteurs et donc nous fournissons des œuvres, pas une prestation de service, et que ces contrats qui sont peut-être assimilables aux contrats de travailleurs ne sont pas accompagnés généralement des garanties et des avantages des travailleurs.
Je pense que la meilleure solution, c'est qu'on prenne conscience, à un haut niveau, au niveau le plus haut possible de notre pays, de l'Europe, etc., de la condition actuelle de l'auteur, qui est assez précaire. Précaire pourquoi ? Parce que il doit déjà beaucoup travailler rien que pour créer, rien que pour inventer, pour faire des choses qui n'existaient pas. Donc, il doit quelque part être aidé à ne pas... C'est pas à lui de faire l'avocat, c'est pas à lui de juger, de chercher dans les pages de droit, c'est pas à lui de prendre sa défense contre des voleurs, contre des éditeurs indécents qui peuvent payer une misère dans la profession. Malheureusement, c'est un cas assez courant.
Bah, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je suis une scénariste qui a eu du succès dès son premier album, qui s'appelait Fléau des dieux à l'époque, en 2001, qui a marché tout de suite et qui m'a donné des revenus confortables qui m'ont permis d'exercer dans de bonnes conditions. Et en plus des revenus confortables, je dirais qu'ils m'ont donné une attention bienveillante de la part de mon éditeur. Mais je crois que c'est, voilà, c'est uniquement de la chance. C'est la chance qui m'a aidé en fait dans mon métier, plus que tout le reste.
Pour ça, il faut, je pense que, comme depuis des années, ça a été dit, nous on a la chance ici d'avoir un très très bon éditeur qui nous dorlote bien et qui a compris justement ce genre de problématique. Et on n'est pas payé aux ventes, on est payé en fonction des pages qu'on fait, qui est un système qui existait en France dans les années 70-80 et il risquait aussi d'être payé à la page comme les Américains, qui est souvent très sain parce que aujourd'hui, ce qui est un petit peu problématique dans le monde de la BD des grands éditeurs ou même de certains petits, c'est que les ventes reposent souvent sur les auteurs, les ventes d'albums, à faire la promotion, ce qui est normal, hein, de faire des dédicaces et des promotions. Mais souvent, il y a des auteurs qui ne vont pas être payés ou moins payés de leurs droits d'auteur parce que l'album ne s'est pas vendu. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'auteur. La responsabilité de la vente, c'est l'éditeur. C'est lui qui prend le risque. C'est comme si, alors j'essaie d'expliquer ça aux gens des fois qui ne sont pas de la partie, c'est comme si la personne qui fabriquait le tabouret chez Ikea était payée le jour où le tabouret était vendu. C'est la responsabilité d'Ikea de vendre le tabouret, le mec qui l'a construit est payé pour l'avoir construit. Et bien la BD, ça devrait être un peu plus pareil, c'est-à-dire qu'on devrait être payé pour nous le métier qu'on fait, c'est-à-dire que dessiner ou écrire les histoires. Et les éditeurs, après c'est leur risque d'éditer, de faire de l'argent aussi dessus, mais voilà, au moins c'est eux qui prennent en charge la vente et le risque de la vente ou de l'échec ou de la réussite. Voilà.
Et dernière question, est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment au niveau européen ?
Alors, je sais qu'il y a justement quelque chose qui est porté je sais pas comment dire. Il y a un projet qui est porté, je ne sais plus par qui, justement pour qu'on ait un statut, un espèce de droit, c'est ça, de droit d'auteur européen, statut européen d'artiste, ok, très bien.
J'étais au courant donc du mouvement avec le hashtag paye ton statut, grâce à l'autrice Siane qui en fait nous a envoyé un petit message sur ce sujet-là, puisque nous sommes une association de webtoon et nous avons un compte Instagram, nous pouvions en fait surfer sur l'événement et participer à la communication. Donc on a profité de ce moment-là pour lancer un mouvement, encourager les artistes qui sont en lien avec nos réseaux sociaux à participer, à dessiner le petit parapluie bleu avec les étoiles jaunes à l'image du drapeau de l'UE et à dessiner un artiste en dessous qui se protège.
Non, j'avoue, je connais mal ce qui se passe actuellement au niveau européen. Je sais que, visiblement, la Commission, si j'ai bien compris, s'est saisie de certains dossiers pour faire avancer le sujet sur le statut de l'auteur. En revanche, moi, je peux remercier la Cour de justice européenne qui a, en son temps, statué sur la question française de la loi sur les livres indisponibles, où là, vraiment, j'avoue, elle a rendu un sacré service aux auteurs en reconnaissant aux auteurs le droit de ne pas divulguer leur œuvre ou en tout cas vouloir faire en sorte que à chaque fois qu'on commercialise une œuvre, on demande à l'auteur son autorisation et que cela impose un respect du droit moral.
Au niveau européen, là, j'ai pas tellement suivi ces derniers temps. Mais bon, comme d'une manière générale, tout tend à s'uniformiser un petit peu avec l'Europe. Je pense que ça, c'est compliqué, quoi.
Je sais qu'il y a une discussion par rapport au statut des auteurs. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas eu le temps. J'ai vu la pétition que j'ai signée dernièrement. Alors voilà, c'est pas bien, j'ai signé une pétition sans trop me renseigner plus que ça, mais c'était il y a ces derniers jours, là, c'est tout récent. Donc voilà, je sais que c'est pour améliorer évidemment notre statut, donc je l'ai signé un peu les yeux fermés. Mais j'ai pas eu le temps, du coup, là, avant les préparatifs justement d'Angoulême, où j'avais tout un tas de choses à faire, de rentrer dans le détail. Voilà, je travaille avec un scénariste qui est très au fait de tout ça, et donc j'espère qu'il va m'éclairer un petit peu de ce point de vue.
Alors, ce que je sais de ce qui se passe en Europe, c'est essentiellement via des collègues et qui sont devenus des amis, qui viennent en résidence à Angoulême, à la Maison des auteurs, et nombre d'entre eux finissent par rester au terme de la résidence. Je connais par exemple beaucoup d'auteurs et d'autrices italiennes qui m'ont expliqué qu'en Italie, on était encore moins bien rémunérés qu'en France. Et que pour eux, le choix était assez simple, rester en France et travailler avec des éditeurs français ou d'autres types de commanditaires français leur permettait de vivre mieux. Donc si nous sommes précaires en France, a priori en Espagne, en Italie, pour ce que j'en sais, relativement à ce qu'on m'a dit, la précarité est encore plus importante dans ces pays limitrophes.
Alors, au niveau européen, j'espère qu'on va enfin pouvoir compter sur l'Europe pour donner un vrai statut aux auteurs. Mais enfin, je crois que les discussions sont encore vives et que rien n'est gagné pour l'instant.
Cet épisode touche à sa fin et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions également tous les auteurs, créateurs et artistes qui se sont prêtés au jeu et qui ont répondu à nos questions. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact@gmail.com. À la semaine prochaine.